Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Frédéric Suteau. Bonjour à vous, Frédéric.
Bonjour, bonjour à tous.
Tout d'abord, la situation en Guyane, ce département français d'outre-mer qui se situe en Amérique latine.
La Guyane, oui, si loin de Paris et de la métropole comme peuvent l'être l'île de la Réunion dans l'océan Indien ou la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, hein, collectivité française d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, non loin de l'Australie. Là, la Guyane est à l'arrêt, mouvement de grève général depuis 2 semaines avec des manifestants qui demandent un véritable plan de rattrapage en termes de moyens dans la fonction publique, en termes de salaire, en termes de développement, d'infrastructures. Une façon de dire qu'il n'y a pas que la base de tir de la fusée Ariane à Kourou en Guyane, qu'il y a aussi des gens qui y vivent, que la Guyane française, qui a pour voisin le Brésil et le Suriname, soit considérée par l'État comme un territoire français à part entière. Voilà ce que réclament les Guyanais. Il a fallu une bonne semaine pour que le gouvernement se saisisse véritablement du problème et envoie la ministre de l'Outre-mer, Erika Barreitz, qui au nom de l'État, Erika Barreitz a présenté en arrivant à Cayenne ses excuses au peuple guyanais. Oui, ses excuses, d'une façon de reconnaître que le gouvernement avait tardé à réagir, que l'État et Paris avaient oublié en quelque sorte la Guyane au fil des années. Ces excuses de la fin de la semaine dernière ont permis d'entamer des négociations avec le collectif guyanais représentant les grévistes et toute la société civile. Un plan d'urgence d'1 milliard d'euros a été arrêté. La ministre de l'Outre-mer est alors rentrée à Paris ce dimanche, mais les Guyanais en veulent encore plus. Ils estiment que ce milliard n'est, je cite, que du saupoudrage. Ils réclament au moins le double d'investissement, un plan de 2 milliards 500 millions, des revendications auxquelles le Premier ministre Bernard Cazeneuve a coupé court en ce début de semaine, à l'issue d'une réunion spéciale à Matignon, à Paris, avec 12 membres du gouvernement. Il s'est prononcé sur cette crise guyanaise. Il serait aisé de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste, puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement, a lâché le Premier ministre, ajoutant que ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République. Ce n'est pas cette conception-là. Bernard Cazeneuve, qui a appelé les Guyanais à lever les barrages qui ont été érigés sur les routes, bloquer la Guyane, bloquer son économie, bloquer ses écoles, bloquer ses services, ce n'est pas ainsi que l'on peut préparer l'avenir, propos là encore de Bernard Cazeneuve. La situation qui est donc toujours bloquée et le contexte est particulier car nous sommes bien entendu en pleine campagne électorale. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans moins de 3 semaines et cette crise guyanaise, même à des milliers de kilomètres de Paris, de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Brésil, elle est bien embarrassante pour le gouvernement qui craint sûrement que des revendications similaires éclatent dans d'autres territoires français d'outre-mer. Nous parlions de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte. Il faut éviter toute explosion sociale avant la présidentielle, car tous ces territoires, même si le président de la République, François Hollande, ne se représente pas pour un second mandat, tous ces territoires d'outre-mer, eh bien ce sont 2 700 000 personnes qui y vivent au total. Et on ne parle pas là des expatriés qui vivent dans d'autres pays du monde, mais bien de ces gens qui vivent en France, sur un territoire français d'outre-mer, certes, mais sur un territoire français. Ils se sentent délaissés, ils se sentent oubliés et ils attendent des propositions, des réponses fermes de la part du gouvernement.
Justement, la campagne électorale, quelles sont les dernières informations ?
Eh bien déjà, disons que la campagne est un peu plus normale depuis une dizaine de jours. Normale au sens où les candidats sillonnent la France, qu'ils vont à la rencontre des Français, qu'ils donnent des meetings tous les soirs. Ils jouent enfin leur partition, les 11 candidats dans cette dernière ligne droite avant le premier tour. Enfin, serait-on tenté de dire, car depuis le mois de janvier, cette campagne électorale ne tournait qu'autour des affaires politico-judiciaires, avec toutes les révélations autour du train de vie, notamment de François Fillon, le candidat de la droite. Alors François Fillon, on le sait, a été mis en examen. Il a décidé de continuer coûte que coûte sa campagne, de maintenir sa candidature. Il était dans le sud de la France ces derniers jours, à Toulon, puis à Ajaccio, en Corse. Un François Fillon qui concentre ses attaques contre Emmanuel Macron, qui le devance, tout comme Marine Le Pen dans les sondages. Un François Fillon qui est désormais talonné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote. Il concentre ses attaques contre Emmanuel Macron avec une rhétorique de la droite qui répète qu'Emmanuel Macron, ce n'est que la continuité du quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron, fils spirituel de François Hollande. Vous avez des affiches dans la rue, sur les murs, qui montrent Emmanuel Macron avec en fond la silhouette de François Hollande. Cet héritage, l'intéressé bien tente de l'ignorer, même s'il a passé 2 ans au gouvernement en tant que ministre de l'économie. Il a promis que s'il était élu Emmanuel Macron, il y aurait de nouvelles têtes au gouvernement. Un message adressé indirectement à tous ceux qui se rallient à lui, à commencer par Manuel Valls, l'ex-premier ministre, il y a quelques jours, qui ne voulait surtout pas se ranger derrière la candidature de Benoît Hamon, le socialiste. Manuel Valls, battu lors de la primaire de la gauche, il est accusé de tous les maux par le Parti socialiste, de trahison. Il se range derrière la candidature Macron. On sent bien que Manuel Valls tente de sauver son avenir politique en se raccrochant ainsi à la dynamique du moment. Aujourd'hui, en tout cas, ce mardi soir en France, aura lieu le 2e débat télévisé. Mais cette fois, contrairement au premier, à celui d'il y a 15 jours, tous les candidats, petits et grands, vont y participer. 11 candidats sur le même plateau, là où il n'y en avait que 5 pour le premier, les 5 crédités de plus de 10% d'intention de vote. Alors déjà, la discussion n'avait pas toujours été très simple à 5, avec des candidats qui avaient tendance à se marcher sur les pieds. Là, à 11, l'exercice s'annonce périlleux. 3 heures de débat pour arriver à un temps de parole d'environ un quart d'heure chacun, pas plus. Une parole qui sera, qui plus est, saucissonnée en fonction des thèmes qui vont être abordés. Mais pour les petits candidats, même s'ils détestent que l'on utilise ce raccourci, pour eux, c'est une aubaine ce débat. François Asselineau va avoir autant de temps de parole que Jean-Luc Mélenchon, Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud autant que Marine Le Pen, Jean Lassalle autant qu'Emmanuel Macron, Philippe Poutou autant que Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan autant que François Fillon. Nous n'avons oublié personne, le compte est bon, 11 candidats, tout le monde a été cité. Un mot encore de cette campagne. Renaud, le chanteur, il n'est pas candidat mais il n'a pas sa langue dans sa poche et généralement quand il prend la parole, c'est qu'il a des choses à dire. Lui qui a reçu au début de l'année le prix du meilleur artiste 2016 aux Victoires de la musique avec un dernier album vendu à plus de 700 000 exemplaires. Renaud, qui est dans le paysage de la chanson française depuis 40 ans maintenant, a choisi son candidat et il l'a fait savoir. Il déplore une gauche divisée. Lui qui avait voté PS en 2007, Ségolène Royal, et en 2012, François Hollande. Renaud se dit déçu par le duel à distance entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, incapable d'allier leurs forces. Et du coup, il votera, il l'a dit, pour Emmanuel Macron.
Pour terminer, un point météo, c'est presque l'été en France.
Oui, ça ne fait que 15 jours que le printemps a officiellement commencé, que nous sommes sortis de l'hiver, mais les températures sont dignes d'un début d'été, avec effectivement le thermomètre qui dépasse allègrement les 20 degrés depuis 15 jours, avec même des pointes ces derniers jours dans le sud, dans le sud-ouest, tout près des 30 degrés. On ne s'en plaindra pas, les gens sont dehors, les terrasses sont pleines, les enfants ont l'impression que les vacances d'été, qui n'arriveront que dans 3 mois, sont encore là, alors qu'il y a encore un trimestre d'école pour tout le monde. Cela ne va sans doute pas durer, car en avril, le dicton le dit, hein, ne te découvre pas d'un fil. Mais en attendant, pourquoi s'en priver? Le soleil est là, et le soleil, avec modération, rien de tel pour la santé.
Merci à vous, Frédéric. Bonne journée. À bientôt.
Merci. À bientôt.
Voilà pour l'actualité française.